Interview.
2 jours.
Bonjour, ici Air Dubois et c'est le moment de l'interview. Aujourd'hui, nous recevons 3 personnes qui sont en lien avec l'avant-poste et on a commencé par Yann Renaud Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Nous avons ensuite Charlotte Vaille, bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Glatt.
Bonjour.
Bonjour. Alors tous 3, vous êtes ici pour nous annoncer principalement cette inauguration de ce 24 juin 2023 à 17h30 et ça sera au tiers-lieu, l'avant-poste, qui se situe dans quelle rue précisément ?
Le bâtiment se situe 3 rue Notre-Dame, juste derrière la cathédrale. Les gens le connaissent parce qu'avant c'était l'endroit où il y avait le bureau des docteurs légers.
Thomas Glatt, vous êtes président de la coopérative de l'Avant-Poste. Alors, cette fonction vous permet de quoi faire ?
Eh bien, l'Avant-Poste a été mené par un collectif d'une petite trentaine de personnes depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, on est structuré de manière assez horizontale, c'est-à-dire que même si effectivement il y a une fonction de président, puisque c'est nécessaire dans une coopérative, ça ne reflète pas vraiment notre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, la volonté du collectif, ça a été d'avoir une présidence tournante sur 2 ans. Donc là, par exemple, je suis président jusqu'à mars prochain. Et ensuite, ce sera une autre personne du collectif qui prendra le rôle. Et en termes de responsabilité, c'est avant tout des responsabilités administratives. C'est surtout ça.
Une grosse activité, donc ?
Eh bien, la grosse activité, elle est très partagée entre les membres du collectif. Le projet, du coup, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, mais on est structuré en commission, puisqu'il va y avoir plusieurs activités dans ce tiers-lieu. Et du coup, par exemple, il y a une commission autour de la finance, une commission autour de la communication, une commission autour des logements, puisqu'il va y avoir des logements, une commission autour des espaces de travail et d'exploitation du lieu, puisqu'on va mettre en location des postes de travail, des salles de réunion, des salles d'activité. Et aussi une commission autour de la restauration, puisqu'il y a un restaurant qui va s'ouvrir très prochainement dans le lieu. Donc, en fin de compte, voilà. Tout le collectif était engagé et investi dans différentes commissions pour porter le projet depuis 2 ans.
Yann Renaud Chevalier, vous êtes agissant au sein du CCAS de la ville de Die. Et donc, vous êtes ici aussi pour ce partenariat avec ce projet, notamment pour le logement.
Exactement. Il y a de cela 1 an, l'Avant-Poste est venu rencontrer le CCAS de la ville de Die pour ce projet logement, puisqu'il y a plusieurs logements qui vont être rénovés. Et l'idée, c'était de confier un de ces logements à un opérateur. Et comme le CCAS est depuis maintenant 2 ans opérateur d'intermédiation locative. Alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est ce qu'on appelle sur Die le dispositif louer solidaire. Ça permet, le CCAS vient louer un logement auprès d'un bailleur, quel qu'il soit, mais privé. Et après, on a une personne, un foyer, en tout cas un ménage, qui est orienté par le service d'intégration et d'orientation, le service intégré d'orientation des personnes qui sont en recherche d'un hébergement ou d'un logement d'insertion. Et donc nous, on signe un bail, une convention en tout cas de bail avec l'Avant-Poste sur un des logements. Et ça va permettre à une personne d'accéder à un logement d'insertion pendant 1 an ou 2. Et nous, on va pouvoir l'accompagner sur certains aspects. Ça peut être l'aspect financier, ça peut être la recherche d'un hébergement, d'un logement pérenne. Voilà.
Charlotte Vaille, vous êtes donc bénévole au sein de l'Avant-Poste. Qu'est-ce qui vous a attiré justement à agir au sein de ce projet ?
C'était le fait
Enfin, c'était le fait que ce soit un projet concret sur le territoire. Donc l'avant-poste, c'est un bâtiment qu'on a récupéré en centre-ville pour en faire des logements, un restaurant, des espaces de travail, des espaces d'activité, une salle de réunion. Et voilà, c'était aussi le fait de transformer une maison secondaire en un lieu qu'on pouvait offrir aux habitants, qui m'a beaucoup parlé. Le fait aussi que ce soit tourné vers les enjeux de la transition, donc de la transition environnementale, de la transition sociale, qui va s'incarner de différentes manières dans le lieu. Le fait que ce soit un projet coopératif aussi, voilà, tout ça m'a beaucoup attiré vers ce projet.
D'ailleurs, vous-même avez une formation dans ce domaine.
À côté de ça, moi, je travaille sur les politiques pour lutter contre le changement climatique, donc plutôt sur l'aspect environnemental. Et sinon, à l'avant-poste, moi, je suis dans un des groupes de travail qui a pour but de faire le lien avec les acteurs du territoire et de voir comment incarner dans l'avant-poste les enjeux de la transition qui sont à l'origine du projet. Donc ça, c'est encore des choses qui sont à construire, qui sont à co-construire avec les futurs utilisateurs et utilisatrices du lieu. Mais on a plusieurs projets en cours de ce côté-là aussi.
À l'initial, il y avait donc cet îlot de bâtiments. Comment êtes-vous arrivé sur cet îlot? Et je crois qu'à l'initial, il y avait aussi Diwatt, l'entreprise qui cherchait justement des locaux pour développer son activité. Et puis aussi oui, une recherche d'un lieu pour des formations. Qu'en est-il aujourd'hui de cet aspect-là? Et qu'est-ce que ça a permis aussi d'amener autour de ce projet?
Au départ, c'était la mairie qui était intéressée par ce bâtiment. Il y avait les docteurs légers qui partaient dans la maison de santé, donc qui allaient quitter les lieux. Et le reste du bâtiment appartenait à la famille Ducomet. C'était une maison qui était dans leur famille depuis plusieurs générations. Et ils souhaitaient la vendre. Et la mairie a étudié la possibilité d'en faire des logements sociaux avec un bailleur social qui s'appelle Solia. Et après une étude, ils se sont rendus compte que ça allait être difficile pour eux de transformer ce bâtiment en logement social, tout simplement à cause des prix, de l'achat et de la rénovation. C'est à ce moment-là que la municipalité elle a essayé de trouver des porteurs de projets qui avaient à cœur de faire quelque chose dans ce bâtiment. C'est à ce moment-là que la coopérative Diwatt a été contactée, effectivement, parce qu'elle cherchait des logements. Et la municipalité a aussi proposé de faire visiter les lieux à des citoyens qui avaient des projets, effectivement, pour faire des ateliers de la formation ou un espace ouvert autour de la transition écologique. Et en fait, c'est à la suite de cette visite de la coopérative Diwatt et de quelques citoyens qu'on a commencé à imaginer le projet avec la bienveillance de la mairie qui nous a accompagnés. Et très rapidement, des activités se sont effectivement... on a imaginé des activités en lien avec notre projet et avec la possibilité qu'offrait le bâtiment. Donc il y a des logements qui... On avait à cœur de garder des logements parce que c'était le projet initial de la mairie. On avait envie que ces logements ils soient à destination de certains partenaires. C'est pour ça qu'on a travaillé du coup avec le CCAS. C'est pour ça qu'on travaille avec l'espace social aussi qui va certainement... gérer deux chambres dans le lieu. On a aussi travaillé avec des associations comme la Tram, le Redar, où rien n'est abouti aujourd'hui, mais en tout cas, on travaille avec eux pour que les appartements et les logements soient gérés par ces structures. Et à côté de ça, on était un certain nombre à vouloir se regrouper pour travailler ensemble, pour réfléchir ensemble autour des enjeux écologiques et environnementaux et c'est comme ça qu'on a imaginé des espaces de travail avec des salles de réunion, etc. Le côté restauration, il est arrivé parce qu'on a envie que ce lieu il soit ouvert. On n'a pas envie que ce soit juste un espace de travail et des logements. On a envie que les citoyens ils puissent venir, rentrer dans le lieu, voir comment il a été transformé, voir qu'il y a encore la possibilité de faire des choses dans ce lieu. Et donc, la création, le restaurant, c'était pour nous le moyen de faire venir des gens et d'ouvrir le lieu sur l'extérieur. Donc voilà un peu comment on a imaginé les différentes activités.
Pour cela, vous avez constitué une
société coopérative d'intérêt collectif.
Merci.
Effectivement, alors ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup, qui a porté beaucoup de gens sur le projet. C'est que le bâtiment n'a pas été racheté par une société civile immobilière, mais par une coopérative, donc une SIC. Et que du coup, le bâtiment, il appartient à cette coopérative. Donc, il appartient à l'ensemble des sociétaires de la coopérative. Aujourd'hui, on est aux alentours de 150 sociétaires. Et on espère qu'on sera beaucoup plus nombreux. Et du coup, on a eu l'impression de sortir un peu de la spéculation immobilière, ce bâtiment. C'est-à-dire que ce bâtiment, maintenant, il a été racheté, il appartient à une coopérative. Et même si la coopérative, un jour, décide de s'en séparer, l'argent gagné, ce sera uniquement ne pourra uniquement être investi que dans des projets de l'économie sociale et solidaire. C'est le propre des SIC.
Voilà. Le projet a pour le moment un coût plus d'un million 150 000 euros environ. Il y en a à peu près encore 260 000 à trouver. Pour cela, vous avez toujours une campagne de demande de financement, par exemple?
Alors en ce moment, donc le projet c'est à peu près 1,7 million. Et en ce moment, on a plus de l'année dernière, effectivement, pour nous permettre d'acheter le bâtiment, on avait lancé une campagne de levée de fonds de deux manières différentes, soit par l'achat de parts sociales pour devenir sociétaire, soit par ce qu'on appelle un mécanisme d'avance en compte courant d'associé qui permet à tout le monde de prêter de l'argent à la SIC pendant un certain temps. Donc le mécanisme des avances en compte courant, il est plus d'actualité, puisque ça y est, on a réussi à acheter le bâtiment. Par contre, la possibilité de devenir sociétaire est toujours possible pour tout le monde. L'intérêt de devenir sociétaire, c'est de montrer que ce projet, on s'y intéresse. Ce qu'il y a de particulier, c'est que effectivement, une part sociale aujourd'hui, ça coûte 20 euros. Donc on a fait le choix de mettre les parts sociales à un prix relativement bas, pour permettre à toute personne désireuse de participer au projet de pouvoir devenir sociétaire. Mais on a aussi des personnes qui nous ont soutenus avec des sommes très élevées en part sociale. Et ça, ça nous plaît beaucoup d'avoir ces deux types de citoyens au sein de la coopérative. Et je ne sais pas si c'est utile de le rappeler, mais le principe de la coopérative aussi, c'est que le sociétariat est décorrélé de la gouvernance. C'est-à-dire qu'une personne qui a une part sociale, elle a le même droit de vote qu'une personne qui en a 10, 100 ou 1000. Et donc ça faisait partie effectivement des valeurs qu'on avait envie de porter en montant le projet grâce à une coopérative.
Yann Renaud-Chevalier, donc le CCAS, quel apport amène justement cet organisme pour ce projet ?
Alors, en termes d'apport, nous, c'est surtout l'intérêt, déjà pour le projet social que porte l'avant-poste, puisque c'est ça qui nous a fortement intéressé. Le fait qu'il donne la priorité à des organismes sociaux ou des associations qui portent des projets autour pour venir répondre à certains enjeux autour du logement, que ce soit pour les personnes fragiles ou que ce soit pour des personnes qui sont dans un itinéraire de migration ou même le logement, la question du logement pour les personnes âgées, dépendantes ou pas dépendantes. L'idée pour nous derrière ça, c'est qu'il y avait un projet social du coup. Autour, en plus de ça, d'un projet lié au travail, avec des espaces de coworking. Très vite, on s'est posé la question de comment ça allait fonctionner, tout ça, parce qu'effectivement, c'est des cultures différentes, c'est des projets différents. C'est, on sent bien que nous, on ne travaille pas avec un bailleur lambda, quoi, un bailleur social. Donc il y a l'envie de voir ce que ça va donner. Et puis c'est très rassurant, en fait, la façon dont ils sont structurés, accompagnés. Nous, on a pu participer à une journée de travail avec la coopérative Oasis sur justement un petit peu le projet social, comment ça pour arriver à se projeter aussi sur comment ça allait se passer au quotidien et définir certaines règles justement. Nous on trouve ça vraiment intéressant. Pareil, on a été euh, On a été interpellé sur la question des logements pour les personnes âgées, tout comme le SCDD a pu être interpellé sur la question de l'hébergement pour des jeunes qui sont en formation. Je trouve ça très intéressant de répondre à des enjeux qui sont vraiment ancrés au niveau local, en tout cas.
Charlotte Veil, vous amenez aussi votre compétence, celui du domaine de l'environnement, de l'écologie. Et en quoi se décline cette compétence au sein de ce projet ?
Alors à l'avant-poste, on a envie de prendre en compte les enjeux environnementaux parce que c'est un lieu qu'on a envie de faire vivre, d'incarner la transition dans ce lieu. Donc on a plusieurs projets qui sont en cours de réflexion, qui n'ont pas forcément encore abouti. Mais une des envies qu'on a, par exemple, c'est de faire une cartographie des acteurs de la transition dans le Diwa, dans le hall de l'avant-poste. Voilà, qui serait quelque chose, quand on entre dans ce lieu, on voit les acteurs qui œuvrent pour la transition dans le Diwa. Et peut-être avec des panneaux explicatifs aussi qui donnent les enjeux et qui soient accessibles à tous les citoyens. Et peut-être quelque chose qui soit couplé avec un outil en ligne, un outil numérique qui pourrait servir aussi aux citoyens. Donc ça, par exemple, voilà, c'est un des projets qu'on a en tête, qui n'est pas encore matérialisé pour l'instant, mais qui permettrait d'incarner les enjeux de la transition à l'avant-poste. Et sinon, c'est aussi avec les discussions qu'on a avec les différentes associations du territoire, les différents acteurs, voir comment on peut leur être utile, comment on peut les accompagner, qu'on peut aussi faire vivre et incarner ces enjeux de la transition. Et enfin, on pense aussi à organiser des événements à l'avant-poste. Donc ça sera aussi, ces événements-là, qui nous permettront de parler de transition, de toucher le plus grand nombre d'habitants du Diwa sur ces sujets.
Je reviens sur cet îlot, donc un bâtiment très ancien. On peut situer son époque de création, au moins 18e ou 17e, non ?
Alors malheureusement, on en a beaucoup parlé,
oui.
Mais je ne l'ai pas retenu.
D'accord.
Alors on espère que, normalement, on est en lien avec le musée de Die, qui connaît très bien l'histoire de ce bâtiment. Et je n'ai pas ça en tête, mais je sais qu'il va y avoir certainement une visite avec des personnes du musée pour justement raconter l'histoire du bâtiment.
Ça sera lors de cette inauguration, cette visite, ou ce sera encore une programmation
Je pense que ce sera une autre programmation, puisque ce n'était pas possible de le faire au moment de l'inauguration.
Ce bâtiment dit ancien nécessite une réhabilitation, hein, notamment avec les normes environnementales et de déperdition, contre la déperdition d'énergie aussi. Est-ce que cet exemple, est-ce que ce projet est aussi un titre d'exemple et pris en compte aussi par les collectivités pour connaître un peu le coût de ces réhabilitations d'anciens bâtiments ?
Alors c'est sûr que le coût de la rénovation du bâtiment, il a été conséquent. Il est plus élevé que l'achat du bâtiment lui-même. C'est aussi parce qu'il y a différentes activités, donc avec des normes différentes. Mais il y a eu un accent très fort sur la rénovation énergétique du bâtiment, en lien avec les architectes des bâtiments de France, l'architecte conseil de la mairie de Die. Parce qu'effectivement, comme c'est un vieux bâtiment, il faut respecter certaines règles de rénovation. Ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on a fait du mieux qu'on a pu en termes de rénovation. Donc on arrive pour donner des ordres d'idée, on va arriver à un bâtiment avec de classe B, donc ce qui est plutôt assez satisfaisant pour ce type de bâtiment. Et là où il y a une innovation qui est à noter, c'est que on est passé par un contrat de performance énergétique avec la coopérative d'Iwat parce qu'on n'avait pas assez de fonds pour faire la rénovation énergétique comme on le souhaitait. Et la rénovation des bâtiments, isolation, changement des fenêtres, changement de la chaudière pour passer d'une chaudière fuel à une chaudière à granules. Et donc du coup, tous ces travaux de rénovation énergétique et le changement de la chaudière, c'est la coopérative d'Iwat qui le prend à sa charge. Et nous, en fait, on fait en fait comme de l'achat de chaleur mensuel. Donc ce partenariat, ce contrat de performance énergétique qui est très innovant, puisque d'habitude, ça se fait avec des industries, mais rarement avec des bâtiments comme ça, des maisons de centre-ville. C'est quelque chose voilà, qu'on teste, que la coopérative teste. Et ces lieux-là et ces projets-là, ça sert aussi à ça. Ça sert d'expérimenter des choses avec des acteurs du territoire ou autres qui ont envie de changer les choses. Mais pour changer les choses, il y a besoin d'expérimenter. Et ce lieu-là, on a envie que ce soit un lieu d'expérimentation. Donc tout ce qu'on raconte aujourd'hui, peut-être que dans 2 ans, ça aura un peu changé. Parce que peut-être que ce qu'on essaye de mettre en place, ça ne va pas marcher. C'est possible, mais ce n'est pas grave. Parce que ce qu'on a envie, c'est que justement, il y ait des choses qui soient testées, qu'on regarde ce qui marche, qu'on regarde ce qui ne marche pas. Quand je dis ça, par exemple, c'est sûr que, comme l'a dit Yann tout à l'heure, va y avoir des gens qui vont se croiser, qui n'ont pas du tout la même culture, et ça va être un enjeu pour nous. Mais on a envie de l'expérimenter, parce qu'on a l'impression que c'est important que tout le monde revienne dans le partage, qu'on partage des communs. Et ce lieu, pour nous, c'est ça. C'est un lieu d'expérimentation autour de la transition écologique et sociale. Et le côté social, il est venu, il n'était pas très présent au départ du projet. Et assez naturellement, en travaillant avec les associations, comme l'a dit Charlotte, et les institutions du territoire, les collectivités, il est assez naturellement venu dans le projet petit à petit. Et on en est très heureux.
Ainsi donc, sont proposés sur ce lieu et, un espace de travail hein, qui consiste en 40 places de coworking. On peut estimer la superficie de cet espace de travail hein.
Alors du coup, les 40 places de coworking, c'était le projet initial. Mais voilà, on s'est rendu compte qu'au final, c'était peut-être pas ce dont le territoire avait besoin. Donc pour l'instant, on l'a réduit. Donc aujourd'hui, on a 25 places et on a gardé une très grande salle au R+2, au deuxième étage. Du coup, une belle salle avec vue sur le clocher de l'église de 90 mètres carrés. Et on ne sait pas exactement encore à quoi va servir cette salle. En tout cas, sur à peu près entre 700 et 800 mètres carrés de bâtiment, c'est à peu près moitié-moitié, disons que voilà, il y a 350 mètres carrés d'espace de travail en comptant cette salle et à peu près 350 mètres carrés de logement. Voilà.
Ce qui fait de belles surfaces hein, pour des logements.
Il y a 4 logements, un studio, un T3, un T2. Il doit y avoir 2 studios, un T3, un T2 et 2 chambres. Et peut-être que ça ne fait pas 350 mètres carrés, tout ça, ça m'étonnerait.
Pour ce qui est des chambres d'accueil, elles sont aussi pour des situations d'urgence. Ça, c'est un impératif sur les conventions pour l'accueil en cas d'urgence.
Alors en fait, au départ, effectivement, quand on a commencé à travailler sur le projet, on s'est dit que ces chambres-là, parce qu'en fait, il y a 4 logements et 2 chambres. Dans les chambres, du coup, il n'y a pas de sanitaire, il n'y a pas de cuisine. Donc l'idée, c'est que les habitants de ces chambres puissent utiliser la cuisine commune, les espaces communs, la sanitaire commune, etc. Et au départ, on avait imaginé effectivement que ces chambres pourraient servir pour des situations d'urgence. Mais en fait, en travaillant avec les acteurs du territoire et donc l'espace social, l'idée c'est que ce soit plutôt l'espace social qui, avec son programme Cohabitons, si je ne dis pas de bêtises, qui va s'occuper des chambres. Et donc c'est eux qui vont effectivement trouver les différentes personnes qui vont pouvoir les habiter.
Alors par rapport au CCAS, Yann, quel est l'intérêt du CCAS ? Bon, notamment les logements, mais qu'est-ce que cela permet aussi pour l'action sociale ?
Eh bien, nous, en fait, on a lancé le dispositif Louer solidaire il y a de ça 2 ans. Et on est encore sur cette phase de captation logement. C'est-à-dire qu'on a un agrément de la préfecture, donc de l'État, pour accompagner des personnes dans des logements d'insertion. En tout cas, sur un accompagnement l'insertion par le logement. On n'est pas les seuls à faire ça sur le territoire. Hein. Il y en a d'autres. Et l'enjeu sur le territoire aujourd'hui, on le sait, c'est la problématique pour beaucoup, c'est l'accès à un logement. L'accès à un logement adapté à ses ressources. Et à un logement qui soit convenable. C'est-à-dire où on ne s'endette pas non plus en voulant se chauffer. Donc l'idée, nous, aujourd'hui, on est dans cette phase de captation de logement. On peut accompagner jusqu'à 5 personnes. Mais aujourd'hui, c'est une réalité. Et autant pour les institutions que pour les personnes, c'est compliqué de trouver des logements. Il y a vraiment une sorte de mise en concurrence des personnes. Les loyers augmente, on le voit, alors que la qualité des logements n'augmente pas forcément. Nous, aujourd'hui, on est dans cet enjeu de pouvoir capter des logements pour les proposer à des personnes qui, sinon, n'ont pas d'autre choix que de faire appel à du logement social. Sauf que même le logement social, aujourd'hui, il y a énormément de demandes pour très peu de place, parce qu'il y a très peu de mobilité au sein du logement social, à dit, en tout cas. Et ben, du coup, l'idée de nous, c'est de pouvoir avoir d'autres pistes de réponse pour ces personnes. Voilà.
Il y a également un café-restaurant, donc une proposition qui est à la charge de qui, d'ailleurs, qui se charge de cet aspect de restauration.
Du coup, il y a une année, on a lancé un appel à projet avec une autre coopérative qui s'appelle Le Grappe. Pour l'appel à projet, c'était on a présenté notre projet de tiers-lieu et on a dit qu'on souhaitait effectivement qu'il y ait un lieu de convivialité. On ne savait pas si ça devait être un restaurant, un bar, un salon de thé ou autre chose. Et du coup, on a reçu une dizaine de propositions. Et il y a eu une sélection avec Le Grappe. Et du coup, le projet qui a été retenu, c'est un projet d'un cuisinier lyonnais qui s'appelle Yann Gaillard, qui est en train du coup de monter son restaurant qui s'appelle Obo au sein de la coopérative. D'ailleurs, le restaurant doit ouvrir pour un premier cercle ses portes ce soir. Et si je ne dis pas de bêtises, l'ouverture officielle sera le 21 juin, le soir du coup de la fête de la musique, où je crois qu'il a prévu quelque chose en particulier.
Avec une proposition culinaire particulière, de quoi serait constitué, par curiosité ?
Eh ben, je ne connais pas exactement le projet gastronomique de Yann. Par contre, nous, on a juste échangé avec lui sur le fait qu'on avait à cœur que les produits soient le plus possible locaux et bio, ce à quoi il était sensible. L'autre chose qui nous a séduit dans son profil, c'est que Yann, dans son parcours, a souvent travaillé dans des restaurants de type SCOP, donc coopératif, et il a souvent eu des liens avec les CCAS des villes dans lesquelles il a travaillé, avec différents mécanismes pour faire venir dans son restaurant des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de pouvoir faire ça. Et si je ne dis pas de bêtises, je pense qu'il est en discussion avec le CCAS aujourd'hui pour justement voir s'il y a la possibilité de faire quelque chose dans ce sens-là.
C'est un dispositif qui existe sur d'autres territoires. Il me semble, initialement, ça venait justement de Lyon. Ça s'appelle le nom du dispositif, c'est le café suspendu. Du coup, ça existe à Die aussi, sous peut-être d'autres formes ou d'autres noms. Je crois que ça existe au théâtre aussi, avec la place de théâtre suspendue. Enfin, l'idée, c'est que quelqu'un qui a les moyens de s'offrir un café, il puisse aussi laisser suffisamment d'argent pour payer un café à quelqu'un d'autre. Après, on peut imaginer tout plein de choses. Hein. Ça peut être aussi le repas suspendu, la place de cinéma suspendu. Enfin, tout ça, on pourrait l'imaginer. Donc, c'est chouette d'avoir des professionnels, là, ici, de la restauration, qui ont envie de participer en tout cas de répondre à certains enjeux du territoire à leur manière, en tout cas à ce qui est accessible pour eux.
Au final, les espaces de travail, ça va permettre de financer les logements. C'est-à-dire que pour proposer des loyers auxquels on va proposer les logements, et c'est déjà pas des loyers bas, parce qu'ils vont être au prix du marché de Die. Seulement on espère qu'ils vont être bien rénovés, donc voilà, mais ils vont pas être moins chers que les prix du marché de Die. Et ben pour réussir à tenir la balance économique du projet, c'est les espaces de travail et c'est des gens qui sont souvent télétravailleurs, salariés de boîtes lyonnaises, parisiennes, qui vont financer les autres activités ou en tout cas la possibilité d'avoir des logements.
Des logements qui seront conventionnés, par exemple ?
Ça, c'est sur critères de ressources. Mais oui, la plupart des logements aujourd'hui peuvent bénéficier des allocations logement. Mais ça, c'est forcément sur critères de ressources. Donc ça dépend des personnes qui vont habiter dedans.
Et puis, il y a les événements associatifs. Donc, il y aura cette inauguration du 24 juin. Qu'est-ce que vous envisagez, justement, avec cette notion d'événements associatifs? Cela permettrait, par exemple, des conseils d'administration, des assemblées générales, ou peut-être des choses plus ouvertes au grand public?
Alors, c'est sûr qu'on a... C'est plus Charlotte qui pourra en parler, parce que ça se fait plus avec la commission Lien avec le territoire. Ce lien avec les associations, où notre idée, effectivement, c'est de que le lieu vive. Donc, c'est un territoire, ça vit souvent par ces associations. Donc, on a envie, effectivement, de faire venir les associations dans ce lieu. Et effectivement, les assemblées générales, les CA, c'est souvent des moments où les bénévoles d'une association se regroupent. Donc, on réfléchit à une manière de leur proposer des formules qui sont intéressantes pour elles. Sachant qu'à Die, il y a quand même une certaine difficulté à avoir des salles pour se réunir. Donc voilà, on aimerait bien pouvoir proposer des choses qui séduisent à l'avant-poste.
Des idées, ça aussi, vous êtes preneur d'idées ou peut-être aussi de les échanger de... Ça, c'est un peu le domaine. Est-ce que toi, Charlotte, tu peux y répondre ?
Sur si on a envie de prendre des idées, la réponse elle est oui, puisque c'est un projet qui est où on a envie d'inclure le plus de monde possible. Et comme disait Thomas, tout le monde peut devenir sociétaire et participer à la gouvernance. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de mettre en œuvre en pratique, d'inclure le plus possible les gens, de les embarquer dans ce projet et de co-construire ce lieu et le projet qui va avec ensemble.
Et l'idée, c'est que le projet, il a été monté par une équipe. Donc derrière ce projet, aujourd'hui, il y a forcément eu un montage financier qui court sur 20 ans, du coup. Et je n'imagine pas que le collectif d'aujourd'hui soit le même aujourd'hui et dans 20 ans. Donc je pense que ça va tourner. Et l'idée, c'est que ce soit tous les citoyens qui puissent reprendre ce projet et en faire ce qu'ils veulent. Et... Tout peut être fait à l'intérieur, ça dépend juste des forces vives qui mettent de l'énergie à un moment donné. Là, aujourd'hui, c'est juste notre équipe de 30 bénévoles, on a fait ça. Peut-être que dans 5 ans, une autre équipe de 30 bénévoles feront des choix très différents et ce sera autre chose et ce sera très bien.
Pour cette inauguration du 24 juin... comment se prépare et qu'est-ce que pourra y découvrir le public?
Alors du coup, le 24 juin, il va y avoir deux temps. Il va y avoir un temps de l'Assemblée Générale, où ça va être du coup notre première Assemblée Générale qui prend beaucoup de notre temps en ce moment, puisqu'on découvre comment ça s'organise dans une SIC, une Assemblée Générale. Et dans le second temps, à partir de 17h30, effectivement, ce sera une inauguration avec l'accueil du public. Tout le monde pourra venir. Donc l'idée, c'est déjà que tout le monde puisse se balader dans les locaux et découvre un peu la rénovation qui a été faite, découvre les différents espaces. Et notre envie, c'est ça, c'est que les gens y rentrent dans ce lieu. En termes d'animation, il va y avoir des choses. Il va y avoir des ateliers autour de la sensibilisation écologique. Il va y avoir des associations comme la Fresque du Climat qui sera présente. Une autre association... une ONG qui s'appelle Soft Rider Foundation qui fait de la sensibilisation autour de la pollution de l'eau. Va y avoir des ateliers effectivement pour simuler son empreinte carbone. Après, l'idée c'est pas forcément que les gens viennent pour faire ces ateliers, ils seront présents. Si les gens ont envie de venir et de discuter de ça, ce sera super. S'ils ont juste envie de venir manger une crêpe et boire un verre avec les gens qui sont là, ce sera parfait aussi.
Tout ça, sous une égide, celui du tiers-lieu.
Effectivement. Donc le tiers-lieu, c'est sympa de se rappeler de ce que c'est, parce que en sociologie, on dit que le premier lieu, c'est son domicile. Le deuxième lieu, c'est son univers de travail. Et après, tu as le troisième lieu. Le troisième lieu, celui que tout le monde connaît, c'est le café. C'est-à-dire que c'est un lieu où on va vivre des choses. Et depuis quelque temps, se développe beaucoup cette idée de troisième lieu. Donc en France, on a traduit ça par tiers lieu. Et du coup, ça, l'idée de ces endroits, c'est un endroit où il se passe des choses. C'est un endroit où, en tant que citoyen, je peux aller y vivre quelque chose, qui soit en dehors de mon travail et en dehors de ma vie de famille ou au domicile. Et donc, c'est pour ça que c'est souvent des lieux d'expérimentation, puisque c'est des lieux où il y a différentes activités. Parce qu'au final, on ne sait pas exactement ce que les gens ont envie de faire à un moment donné. Souvent, d'ailleurs, ça évolue. Donc, ces idées de tiers-lieux, c'est de proposer des endroits pour se retrouver et vivre des choses ensemble et partager des choses ensemble. Au niveau départemental, régional même, il y a le collectif des tiers-lieux qui s'appelle CEDIG, qui est, je pense, une association du coup, qui fédère et organise les tiers-lieux en Auvergne-Rhône-Alpes. L'avant-poste fait partie de CEDIG et grâce à eux, on essaye de fédérer différents projets sur la région entre les différents tiers-lieux.
Pour cet après-midi du 24 juin, donc, il y aura des visites de ces locaux, une présentation des projets en cours aussi. Et est-ce qu'il y aura peut-être un peu de convivialité également ?
Alors du coup, l'idée, c'est... Donc pour découvrir le tiers-lieu, il va y avoir les espaces, il va y avoir des tables rondes un peu qui vont être réparties dans les différentes pièces. Donc avec des sujets qui peuvent être c'est quoi le montage financier, c'est quoi le lien avec le territoire, des choses comme ça. Donc après, les gens pourront passer et discuter avec les différentes personnes du collectif qui seront aux tables. Et après, l'idée, c'est que Yann, du coup, le cuisinier, enfin le restaurateur, il va proposer du coup des choses pour qu'on puisse se restaurer et boire des coups ensemble. Et il y aura aussi un moment de convivialité où il y aura forcément un peu de musique, et puis peut-être qu'on aura tous aussi envie de danser après ces deux années intenses pour aboutir à ce projet.
Je reviens avec les événements associatifs. On sait que pour beaucoup d'associations du Diwa, de Di, il y a un manque certain de locaux. Est-ce qu'il y a possibilité, comme ce qui se présente avec la salle Séverine Baumier, donc, qui est une salle à la disposition de tous, moyennant un accès limité. Et est-ce que ça aussi, c'est une possibilité de proposition au sein de ce projet donc, de l'avant-poste ?
Effectivement, il y a une grande salle dite de réunion qui est faite pour accueillir en gros une quarantaine de personnes. Si je ne dis pas de bêtises, elle fait 45 mètres carrés avec un accès à une cuisine aussi. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse louer cette salle sur des tranches qui peuvent aller de 2 heures jusqu'à la journée pour réaliser leurs événements. La particularité de cette salle, et c'est sympa de le dire puisque ça fait partie de la philosophie du projet, c'est que même si une personne la réserve ou une structure la réserve à la journée, entre midi et 14 heures, c'est une pièce commune. C'est une pièce qui... pour les habitants, pour les coworkers, pour ces gens-là qui veulent venir déjeuner dans pendant leur journée. Et du coup, je dis ça parce que tout le projet a été pensé pour qu'il y ait beaucoup d'espaces communs et beaucoup de partage. Donc c'est un parti pris. Et justement, on va voir comment ça fonctionne une fois que l'avant-poste aura ouvert ses portes.
Beaucoup de choses à découvrir donc avec cet avant-poste en centre-ville. Je vous remercie Thomas Glatt, Charlotte Vaille et Yann Renaud Chevalier d'être venus sur RDI Voix pour nous parler donc de cet avant-poste et de son inauguration. On peut préciser qu'il existe un site internet qui présente sommairement un peu ce projet. D'ailleurs, l'adresse de celle-ci, je la mettrai sur la page de l'émission hein, pour les personnes qui sauraient en vouloir plus. Et je vous souhaite une bonne soirée.
Merci, au revoir.
Merci,
au revoir.
Merci, au revoir.